Dieu a mis fin aux offrandes et aux sacrifices. Hébreux 10, de 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Aujourd'hui, les chefs religieux, chefs des églises de briques, n'ont pas encore compris que Dieu a mis fin aux offrandes et aux sacrifices. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, alliance lévitique, Dieu acceptait, même autorisait, les offrandes et sacrifices que les hommes offraient pour se racheter. C'est-à-dire racheter leur personne pour Dieu. Exode 30, de 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-sicle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Parce que personne parmi les serviteurs de Dieu ne pouvait accomplir dans cette alliance cette mission de rachat, car ils étaient tous des pécheurs. Même passant par Noé, par Moïse, aucun n'était capable de remplir cette mission. Et comme ces offrandes et ces sacrifices venant des hommes, tous pécheurs, ces offrandes et ces sacrifices ne pouvaient pas purifier, ni sanctifier, ni rendre parfaits ceux qui les offraient. Hébreux 10, de 1 à 4. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exactitude de représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est à Abraham, toujours lui, l'ami de Dieu, le seul croyant, que Dieu a réservé cette révélation. Cette révélation de mettre fin aux offrandes et sacrifices offerts par l'homme. Dieu se pourvoit lui-même son offrande et son sacrifice. Écoutons Genèse 22, de 3 à 13. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dans ces passages, Abraham devait sacrifier son fils unique, Isaac, en lui offrant à Dieu, sur sa demande, cette demande, Dieu voulait révéler à son ami que Dieu ne voulait plus cela, car Dieu lui-même va se pourvoir une offrande et un sacrifice. C'était un bélier, mais ce bélier n'était que l'image de Jésus, son fils. Cette scène n'était qu'une révélation, donc cette offrande de bélier, c'est-à-dire un animal, n'était que provisoire. Mais cette offrande et sacrifice, Dieu n'y prenait pas plaisir. Donc, c'est ce que faisait l'alliance lévitique par Moïse, le médiateur. Cette offrande et sacrifice d'un animal ne peut rendre un homme saint, ni parfait, moins encore pur. Ce qui fait que, dans tous les Israélites, aucun n'avait l'Esprit de Dieu saint en lui. Même Moïse et son frère Aaron, qui portaient le sacerdoce de cette alliance, c'est-à-dire médiateur et souverain sacrificateur. Dieu avait alors pris une décision, celle de mettre à terme cette alliance et la remplacer par une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, Dieu se pourvoit son offrande et sacrifice à la personne de son fils, Jésus, le corps du Christ. Une offrande et sacrifice de bonne odeur et plaisir à Dieu, parce que cette offrande et sacrifice du Fils de Dieu est une offrande et un sacrifice pur, sans tache. Cette offrande reflétait la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, la personne de Dieu saint. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Par l'offrande et sacrifice de son corps, Jésus, le corps du Christ, était capable de nous racheter du péché, en le détruisant sur la croix. Ainsi, le racheté devient le temple où doit habiter l'Esprit Saint de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, ayant Christ en lui, est le médiateur et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Car dans l'ancienne alliance, ni Moïse ni Aaron, donc les deux porteurs de cette alliance devenue ancienne, n'avaient le mouvement de Dieu en eux. Car le mouvement où le Saint-Esprit de Dieu était dans la Vierge, c'est cela qui faisait des miracles. Exode 4, verset 17. Prends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Mais Jésus-Christ, le nouveau médiateur et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, n'avait pas besoin d'une verge, car l'Esprit de Dieu, son Père, qui est le mouvement de Dieu, était en lui. Et son Père le proclame, détenteur de son affection, c'est-à-dire son pouvoir et son autorité. Marc 1, 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc la mission de Jésus-Christ était de nous faire connaître son Père et racheter ceux qui croient en lui. Les rachetés sont adoptés et deviennent les enfants adoptifs de Dieu par Jésus-Christ. Romains 8, de 15 à 18. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette offrande des animaux n'était pas une offrande de bonne odeur et agréable à Dieu. Le bélier donné à Abraham n'était que provisoire, en attendant l'offrande du corps de Christ, une offrande pure et sainte. Donc Dieu s'étant pourvu d'une offrande et sacrifice, ce qui correspond à la volonté de Dieu, c'est donc son propre Fils Jésus, le corps du Christ. Dieu met fin à l'offrande et sacrifice des animaux. Point. Hébreux 9, 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 10, de 10 à 24. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. La loi lévitique de l'Alliance lévitique, qui autorisait les offrandes, les sacrifices de tout genre, c'est-à-dire les animaux, l'argent, tout cela prenait fin. Cela cessait pour son inutilité. Hébreux 7, de 18 à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 8, de 7 à 9. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Dieu a procédé à ce changement, car ses offrandes et sacrifices ne pouvaient ni purifier, ni sanctifier un homme. Ce qui enferme les enfants de Dieu adoptifs dans la loi et ses ordonnances, ainsi que dans le culte, les rites traditionnels de l'alliance lévitique sont des antichrists. Car l'offrande de Dieu est une grâce, elle, gratuite. Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. L'offrande et le sacrifice unique du Fils de Dieu a tout effacé de l'alliance lévitique et dépouillé l'autorité de ceux qui exerçaient dans cette alliance. Ainsi, ceux qui continuent à imposer ces rites, traditions et cultes dans l'alliance nouvelle par Jésus-Christ doivent ouvrir les oreilles et se conformer à la parole de Dieu. Colossiens 2, de 14 à 23. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite, et contribuent à la satisfaction de la chair. Le nouveau médiateur et souverain sacrificateur établit une nouvelle loi et des nouvelles ordonnances, du nouveau culte, du nouveau temple. La nouvelle loi, c'est la loi de l'amour, la loi royale. Le non-application de cette loi conduit au péché. Vous le savez vous-même, le salaire du péché, c'est la mort. Jean 8, 11. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour ne pas pécher, il faut mettre en pratique la loi royale de Jésus-Christ. Jacques 2, 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Jean 15, 12 et 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La colonne de cette loi de Jésus-Christ, le nouveau médiateur et souverain sacrificateur, est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. 1 Jean 4, 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le temple a changé, le culte a changé, bref, la loi aussi a changé. Jean 2, versets 16, 19 et 21. Et il dit au vendeur de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Acte 17, versets 24 et 25, et aussi les versets de 28 à 29. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frères, sœurs en Christ, le culte ne se déroule plus dans une maison de briques, construite par les mains humaines. Le culte est donc le comportement, la conduite, l'attitude, le langage, les gestes et actions que l'enfant de Dieu pose tous les jours, en tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Ceci dit, faire toujours ce qui est bien et s'éloigner du mal. Car celui qui fait le bien est habité par la vie et le mouvement de Dieu. Il devient l'être de la race de Dieu. Celui qui fait le mal, il est donc habité par la vie et le mouvement de Satan, père du mal. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Voilà, l'alliance, le sacerdoce ont changé. Certainement la loi et ses ordonnances changent, parce que c'est le médiateur qui donne la loi. La loi qui détermine le fonctionnement de l'alliance. Moïse n'est plus médiateur, ni Aaron comme souverain sacrificateur. Le porteur de la nouvelle alliance, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le nouveau médiateur et souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. C'est donc le nouveau médiateur, Jésus-Christ, qui établit la nouvelle loi et les ordonnances qui régissent le fonctionnement du sacerdoce de la nouvelle alliance. L'alliance nouvelle est une alliance spirituelle et non charnelle. Notre promesse, ce n'est pas la terre de Canaan, mais le royaume des cieux. L'alliance lévitique, le sacerdoce porté par Moïse et à Aaron son frère, est une alliance charnelle. Jésus-Christ, par son offrande et sacrifice, il nous a rachetés pour son Père, pour l'imiter et le glorifier dans notre corps. Notre corps est son temple. Croyant chrétien reçoit l'Esprit de Dieu et marche selon l'Esprit. Mais les enfants d'Israël n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils marchaient par la loi charnelle, la loi de Moïse. Eux, ils ne pouvaient pas imiter Dieu. Les corps rachetés sont appelés à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, à l'exemple de Jésus-Christ. Éphésiens 5, de 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tous les rachetés sont des Jésus, le nom qu'ils ont porté par le baptême au nom de Jésus dans les eaux qui coulent, un nom que leur Père glorifie toujours. Jean 12, de 28 à 30. Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Ici, Dieu a glorifié son Fils et glorifiera tout Jésus, c'est-à-dire ses enfants adoptifs, qui sont les vrais corps du Christ, sa parole. Car c'est par ce corps que la parole de Dieu, Christ, accomplit la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.